son hiver. Ainsi vont les si, elle aimait pourtant, ainsi va la vie.
Irène Finkel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je reçois Claude Yoshizawa. Bonjour Claude.
Bonjour Irène.
Claude, vous êtes né à Paris le 25 avril 1961. Vous y restez jusqu'à l'âge de 5 ans, puis vous quittez la France pour le Japon. Nous sommes alors en 1966. Vous êtes élève au lycée franco-japonais de Tokyo. Vous y restez jusqu'en 1978, l'année de votre bac. En 1979, revenu en France, vous êtes inscrit en droit à Paris. Vous faites 3 ans d'études universitaires et vous entrez dans la vie active parce que vous avez trouvé, en fin de première année d'études, un métier qui est coordinateur pour tournage de films japonais en France, c'est-à-dire toute la préparation et prise de vue de photos, cinéma, repérage, casting, autorisation, matériel, gestion des budgets, etc. Finalement, vous occupez ces fonctions jusqu'en 1989. De 1989 à 1995, vous êtes manager d'un pilote japonais de Formule 1. Après 1995, vous reprenez un métier de coordinateur jusqu'en 2000. Donc jusque-là, on peut dire effectivement que vous vous êtes occupé des Japonais qui s'installaient en France, en Europe. À partir de l'an 2000, vous décidez de faire le contraire et d'aider les Français qui s'installent au Japon. Vous intégrez donc une association japonaise à Paris, où vous faites la rédaction d'une méthode d'initiation aux Japonais en 2002. La première année, ce livre est le plus vendu de toutes les méthodes d'apprentissage du japonais. Mieux que la référence, la méthode assimile. Vous continuez à aider les Français en indépendant jusqu'en 2009 dans le domaine de la culture, du tourisme, des affaires. Arrivé à Toulouse en 2009, vous poursuivez cette activité en créant votre propre structure avec pour partenaire un céramiste japonais qui habite près de Fronton. Naissance alors du CCFJT. Activité que vous continuez encore aujourd'hui et que vous allez bien entendu nous expliquer. Mais avant tout, je souhaiterais que nous parlions de cette enfance, je ne vais pas dire hors du commun, mais tout de même, quitter Paris pour Tokyo à l'âge de 5 ans, est-ce que vous avez un souvenir précis de ce moment-là ?
Alors, il est vrai qu'à l'âge de 5 ans, je ne conserve pas trop de souvenirs de cette époque. Sinon, il y en a un. Alors, je ne sais même pas si c'est un souvenir réel ou un souvenir rêvé, à force d'ailleurs de le répéter. Vous savez comment ça se passe. Mais il me semble me souvenir que quand je suis arrivé à l'époque à l'aéroport de Haneda, donc de Tokyo, c'est ensuite que l'aéroport de Narita s'est ouvert. Et que maintenant, Haneda, qui était l'équivalent d'Orly, si vous voulez, uniquement normalement pour les lignes intérieures, a réouvert, je dirais, à l'international. Bref, en arrivant à Haneda, je me souviens que j'étais un petit peu horrifié de ne pas comprendre ce qui se disait à l'extérieur. Et c'était l'époque, vous savez, 66, pour sortir de l'avion, on descendait des escaliers, on marchait sur le tarmac et ensuite on allait à l'aérogare. Et je me souviens avoir empoigné la main de ma mère, mais vraiment de frayeur comme ça, pour me dire « qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien ». Et cette main était relativement distante, en fait. Je la serrais, mais elle ne me serrait pas là. Et à un moment pris d'un doute, je lève la tête et en fait, j'avais pris la main d'une dame japonaise qui était devant ou derrière, je ne me souviens plus, mes parents. C'est une image qui me reste de mon premier contact avec le Japon.
Votre papa est japonais, votre maman française. Oui. Vous êtes parti au Japon à l'âge de 5 ans, donc vous parliez français en ayant grandi.
Français.
Mais pas du tout japonais ?
Pas du tout. À part 2-3 mots, on avait l'habitude à la maison d'appeler par leur nom en japonais la sauce de soja qu'on consommait parfois de temps en temps. On disait shoyu et non pas sauce de soja, ou alors on disait les ohashi pour dire les baguettes. Voilà, mais c'était de cet ordre-là. Et mon père étant un francophone plus qu'averti déjà à l'époque, il parlait tout à fait couramment le français. On parlait français à la maison. Voilà.
Est-ce que votre maman parlait japonais ?
Du tout.
Du tout ?
Du tout. Elle l'a appris en allant au Japon.
À 5 ans, c'est un vrai changement de vie pour un petit garçon qui commence, ça a été perturbant ?
Non, pas spécialement.
Pas spécialement, parce que vous aviez déjà des petits camarades, vous aviez commencé la maternelle, j'imagine, en France.
Oui.
Et on vous a, en quelque sorte, déraciné.
Non, pas vraiment. C'est là où il y a une petite différence, c'est que je suis franco-japonais. Donc je n'ai pas vraiment été déraciné, je suis passé d'une racine à une autre.
D'accord.
Donc de ce point de vue-là, alors je vous ai raconté cette anecdote de la langue que je ne comprenais pas. Mais vous savez, à 5 ans, on s'adapte très très vite.
Du moment qu'on est avec papa, maman, on s'adapte.
Voilà. Or, alors, je n'en ai pas vraiment de souvenir non plus précis, mais je sais que mes parents étaient occupés. Si on est parti au Japon, bien entendu, pour moi, c'est que j'ai suivi mes parents. Et non, pas le contraire,
évidemment.
Malheureusement. Mes parents, mon père avait une activité professionnelle qui a fait que mes parents ne pouvaient pas trop s'occuper de moi. Et pendant 3-4 mois, je crois, j'ai été envoyé chez ma grand-mère, donc paternelle, japonaise, qui habitait non pas Tokyo à l'époque, mais à Kobe.
Et qui, évidemment, ne parlait que japonais.
Voilà, pas un mot de français. Et donc, j'ai dû me débrouiller avec elle et elle avec moi. Et c'est comme ça que j'ai appris sûrement mes premiers mots de japonais. Les besoins dans ces cas-là sont pas très importants, si ce n'est que si on arrive à boire quand on a soif et si on arrive à manger quand on a faim, après le reste on s'amuse à 5 ans. Voilà,
en plus, oui, bien sûr.
C'est un peu comme des grandes vacances.
Oui, on doit dire que vous êtes fils unique. Hein.
Tout à fait.
Donc là, vous étiez vraiment seul avec une grand-mère qui ne...
Mais très bienveillante. Donc tout s'est très très bien passé. Malheureusement, je vais vous raconter mon enfance ou ma jeunesse ou tout. Malheureusement, j'ai pas subi des choses qui sont dramatiques ou tragiques, etc., qui seraient très intéressantes. J'ai eu une enfance tout à fait banale, mais avec cette originalité d'être franco-japonais, et donc une partie en France, une partie au Japon. Sinon, autre petite anecdote, c'est quand je suis revenu au bout de 4 mois chez mes parents. Là, alors ça, je ne m'en souviens pas, mais ma mère me l'a souvent dit, que je ne voulais plus du tout parler français et je ne parlais plus que japonais. Voilà.
Donc ça a été un apprentissage. Quand on dit que jeune, on apprend facilement une langue, il semblerait que ce soit tout à fait vrai.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est parce que je baignais là-dedans, je regardais la télé, c'était en japonais, il fallait bien que je m'exprime en japonais. Et voilà, c'était pas quelque chose de pénible.
Votre maman a évidemment continué à vous parler français, parce que j'imagine que l'apprentissage pour elle a été beaucoup plus difficile puisqu'elle était adulte, ce qui vous a permis de ne pas perdre votre français, puisque ça aurait pu être le risque en étant si jeune.
Tout à fait. Alors non seulement ma mère, mais mon père aussi, je vous ai dit, il parlait très bien français. Et à la maison, en fait, on a toujours parlé.
Même au Japon, votre papa a continué à vous parler.
C'est-à-dire que j'ai... j'y reviendrai quand arrivera le moment où on parlera peut-être de cette période universitaire ou après, post-Japon, si je puis dire. Mais au Japon, en fait, j'ai eu deux cadres français qui étaient le cadre familial et le cadre scolaire. Et tout le reste de mes activités, c'était en japonais, c'était avec des japonais puisque c'était à Tokyo. Voilà. Mais les choses ont été relativement claires. À l'école, on parlait français, c'était un lycée français, franco-japonais, mais un lycée parfaitement français.
Donc tous les cours étaient donnés en français, toutes les matières.
Tout à fait.
Vous aviez des cours de japonais aussi, j'imagine.
À peu près une heure par semaine, exceptionnellement à ce moment-là, parce que c'était à Tokyo. Et que le japonais n'était même pas encore vraiment reconnu, etc. Bref. Mais on estimait que c'était quand même dommage de ne pas avoir au moins une heure de cours, ce qui n'apportait en fait rien du tout. Mais...
Petite question, dans un lycée comme ça, à Tokyo, un lycée français, on vous enseigne l'histoire de la France ou l'histoire du Japon ?
Non, l'histoire de la France. C'était un lycée parfaitement français. On dépendait, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, on dépendait de l'Académie de Montpellier.
D'accord.
C'est l'Académie de Montpellier qui gérait l'Extrême-Orient, je crois, et donc le Japon.
Donc, c'est-à-dire que c'était les programmes qu'on pouvait trouver à Montpellier ?
Tout à fait. Tout à fait, avec des profs en plus de qualité, parce que vous savez, bien souvent pour les expatriés, on sélectionne des gens de qualité. Alors c'est vrai qu'il y avait quelques profs pour les matières, malheureusement, comme d'habitude, considérées comme secondaires, comme le dessin, la musique, vous savez ce que c'est, qui étaient souvent des recrutés locaux, des Français qui habitaient là et qui avaient quelques connaissances ou certaines connaissances ou connaissances certaines. Mais sinon, pour les matières dites principales, que ce soit en français, en maths, en histoire géo, en physique, en chimie, etc., dans mon souvenir, on a eu beaucoup d'agrégés, de personnes tout à fait diplômées, performantes, capables d'enseigner dans les meilleurs lycées, je dirais parisiens même, pourrait-on dire, et qui se retrouvaient au Japon. Ce qui ne veut pas dire que tous étaient des très très bons professeurs. Certains... J'en ai pas gardé de très, très grands souvenirs.
Et vous, étiez-vous bon élève ?
Alors, moi, je me considérais comme un bon élève dans le sens où j'apprenais bien ce que l'on voulait bien m'enseigner. Mais je n'étais pas un bon élève dans le sens des résultats. Je me suis toujours satisfait d'être dans la moyenne, juste au-dessus pour pouvoir passer, d'une année sur l'autre pour pouvoir passer au-dessus. La pire année étant donc celle du bac en terminale.
Oui.
Où là, en rentrant en terminale, je me suis dit, il faut que je réussisse mon bac. Si je le rate, je redouble. Je peux faire tout ce que je veux cette année-là pourvu que je réussisse le bac. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis tapé des carnets de notes qu'on nous donnait tous les mois et demi qui étaient inavouables. Genre 4, 5 de moyenne, etc. Mais il faut voir aussi que j'étais dans une classe en terminale, on était 15 en tout.
Ah oui.
On était 15 en tout pour trois sections. Section A, littéraire, une personne. Section B, sciences économiques, où j'étais, on était 4. Et 11 en section, donc dit C, maths physique.
Scientifique. Oui. C'est presque des cours particuliers.
Voilà.
C'est extraordinaire pour des enfants quand on voit qu'en France, il y a 35-40 élèves en terminale. Vous vous rendez compte, c'est une chance.
C'est une chance, et surtout pour le professeur aussi, parce qu'il se dit, si jamais un élève n'a pas compris, il a le temps de recommencer, il a le temps de réexpliquer. Et en plus, je ne veux surtout pas médire sur une ancienne une copine du lycée, mais on avait dans ma section une jeune fille qui n'était vraiment pas du tout douée pour les études. Très sympa par ailleurs, et tout ce qu'on veut, mais pas douée, et qui pratiquement ne comprenait jamais à la première fois. Donc nous, les autres, on n'avait même pas besoin de lever le doigt qu'on ne comprenait pas, on était sûr qu'elle demanderait, et le professeur l'expliquerait. Donc on ne se mouillait pas, qu'on ne comprenait pas, on avait quand même la deuxième explication, et au bout de deux fois, on finissait par comprendre. Voilà. Et vous savez, quand on comprend vraiment quelque chose, on n'a plus besoin de réviser derrière.
Bien sûr.
On n'a plus besoin.
Bien évidemment.
Voilà.
Bien sûr.
Donc la seule fois où je me suis dit quand même, je ne vais pas prendre trop de risques, c'était pour le premier bac blanc en hiver, juste avant Noël. Je crois avoir eu 17 de moyenne. Donc vous comprenez qu'après jusqu'au bac, le deuxième trimestre et le troisième trimestre, c'était une catastrophe. Je n'ai rien fait.
Vous faisiez des activités extrascolaires
oui.
En cette période de lycée, justement, d'adolescent.
Je faisais du judo.
Oui.
Voilà, puisque les cours en général, c'était surtout en terminale, c'était la plupart, presque tous les jours, à partir de 8h du matin jusqu'à 5h du soir, du lundi au vendredi. C'était un système où on avait, dès le départ, on avait choisi dans ce lycée de ne pas faire de cours le samedi pour laisser un week-end pour les expatriés qui n'étaient là qu'un an ou deux. Ils avaient un week-end complet pour pouvoir visiter le Japon, etc. Et donc nous, on travaillait de 8h à 17h tous les jours et après 17h, pratiquement tous les soirs, à partir de la troisième. J'ai commencé en fait le judo à l'âge de 8 ans, mais j'ai commencé vraiment à en faire sérieusement, je dirais, à partir de la troisième, seconde, où j'y allais tous les jours, et ça me plaisait, ça me passionnait, etc.
Vous dites qu'au lycée français, on vous enseignait l'histoire de la France.
Oui.
J'imagine aussi la géographie de la France.
Nos ancêtres, les Gaulois.
Ce petit village perdu. Et alors, les ancêtres de votre papa, l'histoire du Japon, la géographie du Japon, vous l'avez apprise chez vous ?
Alors, la géographie, je l'ai apprise... dans ma chambre, j'adorais regarder les cartes. Et puis je l'ai aussi appris un petit peu en voyageant avec mes parents. Mais honnêtement, on n'a jamais voyagé autant que mes copains, je dirais, qui justement eux avaient la chance quelque part d'être des expatriés dont les parents, le père, souvent étaient en fonction pour 2 ou 3 ans. Donc
ils en profitaient
beaucoup,
pour vraiment vous visiter.
Nous, on était des locaux, si
oui.
Je dirais. Donc on partait éventuellement en vacances.
Comme toujours, quand on habite dans un pays.
Voilà.
Ce qui est un tort,
oui, mais d'un autre côté, c'est aussi en fonction des moyens.
Évidemment.
Bon, on sait que ce sont essentiellement les Parisiens qui ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel. C'est à peu près la même chose. Voilà. Et sinon, alors, l'histoire du Japon, elle m'avait complètement passé au-dessus.
Ah oui.
Ah oui. C'est pour ça que, vous savez, en fait, comme j'ai suivi un système tout à fait français, il m'était impossible de suivre en même temps un cursus japonais. Complet pour ressembler à n'importe quel autre japonais. Donc en ce sens, il y avait une grosse différence. Sauf que, je tiens à préciser quand même, au niveau de la langue, au niveau de l'approche culturelle, je dirais, ou de la mentalité, d'abord j'avais un père qui était assez sévère de ce point de vue-là et qui tenait à ce que je comprenne bien aussi la mentalité japonaise. Et le fait d'avoir fait du judo dans un petit club de quartier, je dirais, avec des Japonais, de fréquenter des Japonais, m'a fait comprendre que c'était là l'essentiel de ce que je pouvais retirer de mon séjour au Japon. Après, les dates de l'histoire du Japon, je pourrais les apprendre n'importe quand, si vous voulez.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Vous aviez toute la vie pour ça.
Voilà.
Claude, on a vu que vous avez donc passé votre bac dans ce lycée français à Tokyo. Vous rentrez en France après le bac en 1979. Pourquoi ? C'est un choix ? Vos parents revenaient en France ? Comment ça se passe à ce moment-là ?
Non, alors mes parents sont restés au Japon et encore, je ne sais même plus d'ailleurs, pour 10, 12 ou 15 ans de plus que moi. Non, il se trouvait simplement que le bac français n'était pas reconnu à l'époque au Japon. Et donc, il était très difficile d'intégrer une université japonaise, si ce n'est d'intégrer une des quelques sections internationales qui existaient dans des universités de Tokyo. Mais d'un autre côté, bon, ça, c'était pas un choix qui me plaisait beaucoup. Et d'un autre côté, je n'avais pas envie non plus de rentrer dans un système éducatif quand même assez différent de la France. Vous savez, ne serait-ce qu'une division, on ne les pose pas de la même manière. C'est une gymnastique, si vous voulez, qui est différente. Bref. Et comme je viens de vous dire, j'avais appris ni l'histoire du Japon, ni sa géographie, ni rien à la japonaise. Donc, je préférais rentrer en France. Et c'est d'ailleurs un retour que j'ai préparé.
C'était un vrai choix.
C'était un vrai choix. En même temps, il m'était quelque part imposé par ce côté technique du bac. Et d'un autre côté, c'était un vrai choix assumé et que j'ai préparé de différentes manières, mais dès l'âge de 13-14 ans. Je savais qu'une fois que j'aurais terminé le bac, je rentrerais en France. Donc j'étais déjà dans cet état d'esprit.
Est-ce que vous aviez la nostalgie de la France quand vous étiez adolescent ?
Du tout.
Le départ après le bac, justement, de rentrer en France, comme on vient de le voir, par choix, pour préparer votre avenir professionnel, comment s'est fait ce départ ? Est-ce que, j'imagine que vous étiez fait plein d'amis à l'époque, vous aviez peut-être une petite fiancée. Est-ce que ça a été difficile de quitter toute une vie, de partir d'un pays où vous veniez maintenant, par contre, de passer 13-14 ans de votre vie pour revenir en France? Vous avez gardé des contacts?
Alors, vous me posez plein de questions d'un seul coup.
N'est-ce pas?
Alors, la France ne m'était pas complètement inconnue non plus, bien que vivant au Japon, puisque mon père travaillait pour une société française et tous les ans, il fallait que mon père revienne en France au siège de sa société pour un rapport annuel, si je puis dire. Bien. Très rapidement. Alors
lui,
très rapidement, ma mère l'a accompagné, et puis moi j'ai pu aussi l'accompagner. On a pu faire le voyage en famille à partir de 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. C'est fait que tous les ans, tous les étés, on retournait en France.
À Paris ?
Non, pas forcément. Alors on arrivait en général vers le 10 août pour pouvoir être à Paris 2-3 semaines plus tard pour la rentrée. Et c'est là que mon père pouvait travailler, parce que vous imaginez bien que mon père, en plein mois d'août, n'aurait pas pu travailler en France. Les sociétés, surtout à cette époque, ne n'ouvraient pas en août, elles étaient fermées. Donc on devait attendre la rentrée. Ce qui pour moi était génial, puisque je passais deux ou trois semaines de vacances en France. Alors c'était tous les ans, ça changeait un peu. On allait voir des amis à droite, à gauche, dans le sud, dans le nord, en Bretagne, dans le midi, dans le centre, en Auvergne, etc.
Mais là, sur le coup, vous avez bien visité la France.
J'ai pas mal visité, oui. Et souvent, il y avait un ami qui nous avait prêté une voiture et souvent, on a fait des longues randonnées. Notamment l'été 76, si chaud, je me souviens. On avait une décapotable, c'est une horreur, parce que finalement, il fallait la fermer, mais bon.
Parce qu'il faisait très, très chaud. L'année voilà. De la sécheresse.
Et surtout, donc après, j'avais droit à deux semaines de vacances supplémentaires quand mes parents travaillaient, donc mon père travaillait. Après, j'avais droit à deux semaines de vacances supplémentaires à Paris, où je passais toutes mes journées dans les musées, à me balader, etc., dans les cinémas, etc. Et tous les ans, depuis l'âge de 13-14 ans, je suis arrivé avec deux semaines de retard à la rentrée à Tokyo. Et c'était super sympa déjà d'arriver en retard. Voilà.
Et donc, vous arrivez en France en 79, vous vous inscrivez en droit. Pourquoi ce choix de vous inscrire en droit ? Vous aviez une idée de métier justement qui nécessitait ces études-là ?
Alors, je n'avais pas précisément de choix. Il se trouvait que juste avant, quelques temps avant de partir, en fait, quand j'étais en terminale, mon père qui s'occupait donc d'une société française, mais en fait d'un grand groupe, et qui avait besoin de créer des sociétés au Japon, faisait appel au service d'un avocat international. C'était un Français. Qu'un jour, il a invité à dîner à la maison et j'ai pu discuter avec lui. Et ce gars-là m'avait dit qu'à l'époque, il avait fait un doctorat de droit en France. Il avait fait 2-3 années pour faire du droit comparé avec le Japon. Et après 10 ans d'études, à l'époque, il m'avait dit que mon premier salaire avait été de 30 000 francs.
Voilà. Ce qui était une fortune. Bien sûr.
Mais je me dis, c'est une bonne raison.
Voilà.
Je n'étais pas spécialement attiré par l'argent, mais je me disais, c'est déjà une raison. Moi qui n'avais aucune. J'avais pas spécialement d'attirance pour telle ou telle étude, je ne savais pas quoi faire. Et il se trouve qu'en même temps, en terminale, j'avais mon prof d'éco qui était un coopérant qui était venu, qui était un jeune gars vachement sympa qui lui venait de la fac d'Assas, donc Paris 2, en sciences éco. Et il m'avait dit, il y a du droit aussi à Paris, à Assas, vas-y si tu veux, ça, c'est vachement sympa. Alors lui était un bon petit bourgeois, je dirais, d'une bonne petite bourgeoisie française, parisienne même, d'où ce choix d'Assas. Bon, j'ai pas vraiment regretté, mais c'est vrai que c'était un peu particulier, mais c'était sympa, voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri en droit à Assas, en me disant, voilà, je vais faire la même chose, je vais faire un doctorat, puis après j'irai faire 2-3 ans au Japon, puis comme ça j'aurai sûrement un poste sympa, quoi, voilà.
Quelles étaient vos lectures à l'époque ? Vous étiez plus tourné vers les lectures d'auteurs japonais, d'auteurs français ?
Je vais vous faire peur, mais je lisais très peu.
Très peu.
Et de toute ma vie, j'ai lu très très peu. Parce que vis-à-vis de la lecture, c'est un petit peu comme tout le reste. Pour moi, c'est un apprentissage. C'est une découverte, c'est un apprentissage. Et je n'aime apprendre que les choses auxquelles je suis confronté et non pas apprendre pour apprendre.
D'accord.
Et je n'aime pas non plus découvrir les choses à travers l'œil d'un autre. J'aime bien avoir l'œil d'un autre ou l'avis d'un autre quand je suis confronté à quelque chose, que je me suis fait une première impression. Et à chaque fois, je me dis, bon, ça, c'est ma vue à moi. C'est ma vision, mais quelle peut être la vision d'autres, et notamment de gens qui éventuellement ont écrit justement sur ce sujet, des gens qui sont célèbres et qui ont un renom, qui ont une crédibilité, et là je vais éventuellement lire. Mais sinon, la lecture en soi n'est pas quelque chose qui me passionne. Je lis de temps en temps, mais de même que j'écoute de la musique, que je vais au cinéma, que je vais dans des musées, que je... Oui. Ce n'est pas voilà, une passion en soi.
D'accord, vous ouvrez sur... plein de choses à la fois.
J'essaye. Et tout ça, sûrement, c'est dû à ma situation d'être né à l'origine entre la France et le Japon. Ce n'est pas que je suis soit l'un, soit l'autre, c'est que je suis les deux à la fois. Et vous savez, le miracle de tout cela, si pour ainsi un miracle, c'est que je ne suis pas un, mais deux. Tout est deux. J'ai deux nationalités, j'ai deux cultures, j'ai deux façons de penser, j'ai deux langues, etc. Et le deux, vous savez, le deux, ce n'est pas simplement un deux, c'est le début du pluriel. Quand on sort du 1, on prend conscience que s'il y a 2, il y a peut-être 3, il y a peut-être 4, il y a peut-être 5, etc. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai cette tendance à être très éclectique plutôt qu'à être très, très pointu sur un seul domaine.
Voilà. Claude, alors je ne sais pas auquel je m'adresse, aux deux. Je vous propose tout de suite une première pause musicale. Et votre choix s'est porté sur une chanson japonaise, une de vos préférées dans votre jeunesse, m'avez-vous dit. Je vous laisse nous donner le nom de l'artiste et du titre.
Alors l'artiste, en fait ils sont deux je crois, ils ont pris le nom d'un groupe, le nom est Kaguya Hime, et la chanson s'appelle Aka Chōchin, c'est-à-dire la lanterne rouge. Est-ce que j'ai 30 secondes éventuellement ? Peut-être que, comme c'est tout en japonais, peut-être
allez-y,
que
je peux vous dire prie, un petit peu
quelques phrases du premier refrain pour vous situer un petit peu l'ambiance. Les premières phrases sont « Notre appartement à tous les deux en ce temps-là, l'ampoule nue était bien aveuglante ». Il tremblait au passage des trains de marchandises. C'était finalement une chambre qui nous allait bien. Te souviens-tu de ce soir de grand froid ? Invité par une lanterne rouge, j'ai acheté du oden. Oden, ce sont des petites quenelles de poisson, des choses comme ça qu'on fait dans un bouillon. C'est chaud, ça réchauffe l'hiver, les Japonais adorent. J'ai acheté plein de oden, c'était un luxe. Une fois par mois, on a même bu aussi un peu de saké. Voilà.
On écoute.
あの頃二人のアパートは裸電球眩しくて貨物列車が通ると揺れた二人に似合いの部屋でしたますか寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買いました月に一度の贅沢だけどお酒もちょっぴり飲んだわねI'm 仕事もせずにキャベツばかりをかじってた。そんな暮らしがおかしくて、あなたの横顔見つめてた。あなたと別れた雨の夜、公衆電話の箱の中、膝を抱えて泣きました。生きてることはただそれだけで、悲しいことだと知りました。
Claude, nous avons dit que vous étiez né en 1961. Vous avez donc eu 40 ans en 2001. À cette époque, vous habitiez dans le sud de l'Isère, à 60 km au sud de Grenoble. Quelle était votre vie à ce moment-là ?
Et je rajouterais à 1000 mètres d'altitude, dans un petit village, si on peut appeler ça comme ça, qui lui-même était explosé en 7 hameaux. Dans le village entier, il y avait 237 habitants, je crois, et dans le hameau dans lequel j'habitais, il y avait une vingtaine de maisons, dont 5 étaient occupées toute l'année. Voilà.
Oui.
Donc vous voyez, on était dans les Alpes, voilà, dans les montagnes.
Là, ça change de Paris et de Tokyo.
Tout à fait. Mais il se trouvait qu'à l'époque, j'étais marié. Le fait de le dire à l'imparfait signifie que je ne le suis plus maintenant, mais bon, c'est pas grave, mais comme ça m'évite de laisser pour...
Non, mais ça arrive à des gens très
voilà,
bien.
Voilà, hein. Ça arrive à des gens très bien, la preuve. J'étais marié et il se trouvait que simplement c'était la terre d'origine un petit peu de mon épouse. Elle avait de la famille et puis comme je sortais de cette période dont vous avez parlé... jusqu'en 95 où je travaillais dans la Formule 1. À cette époque, on habitait Nice. Et puis, comme c'était un changement professionnel, on s'était dit, tiens, ben là, voilà, il y a une maison qui est disponible, qu'on peut occuper dans les montagnes. Et puis, moi, de mon côté, j'avais vécu à Paris, à Tokyo, à Paris, donc dans des grandes villes. Et j'avais vécu également à Bandol, une petite commune entre Toulon et Marseille, pour ceux qui connaissent, donc au bord de la mer. Mais je n'avais jamais habité en montagne. Donc je me suis dit, c'est une bonne occasion, allez, on file en montagne. Et surtout, bon, on était à une heure de Grenoble. Et quand vous êtes à Grenoble, vous êtes à 3 heures de Paris en TGV, donc la possibilité de travailler... et de faire ce métier de coordinateur, donc d'aller ensuite, à partir de Paris, d'aller dans plein de régions de France, voire d'Europe, voire du monde, parce que ce métier de coordinateur m'a emmené jusqu'en Guyane, par exemple, pour aller filmer la fusée Ariane avec des Japonais, ou en Afrique, etc. Voilà. Donc voilà, j'étais dans le sud-Isère. J'étais dans le sud-Isère et la vie était, ma foi, très très sympathique.
Vous avez des enfants ?
J'ai un fils qui est né justement quand on était à ce moment-là, puisqu'il est né en 97. Et voilà, que vous dire davantage ?
Eh bien, qu'à 40 ans, vous étiez donc en Isère. Oui. Vous avez, j'imagine, à ce moment-là, comme tous les hommes, vous vous êtes dit « j'ai 40 ans, Je fais un bilan de ma vie. Et vous vous êtes dit quoi sur ce bilan ?
Alors non, le bilan, je l'ai fait juste un petit peu avant, comme vous l'avez rappelé. C'était l'année précédente, c'était ce fameux millénium. On passait... on ne changeait pas vraiment de siècle, puisqu'on a changé de siècle en 2001, oui. Enfin, en fin de compte. Mais bon, on passait des années 1900 à 2000. Et c'est vrai que ça me trottait un petit peu dans la tête depuis un certain temps. Je trouvais le métier que je faisais de coordinateur était quand même était très intéressant, mais assez répétitif, en fin de compte. Et il se trouvait qu'en France, où j'habitais donc depuis un moment, je sentais monter l'intérêt des Français pour le Japon. Donc je me suis dit, ça serait peut-être bien symboliquement de profiter de ce passage à l'an 2000, voilà.
Non pour seulement, vous orienter autrement.
Voilà. Et donc cet examen de conscience, si je puis dire, mais je n'ai même pas eu besoin de le faire, ça s'est fait très naturellement. Je l'ai fait un an plus tôt, donc en l'an 2000, pour mes 39 ans, si je puis dire. Et non pas 40, mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que voilà, je peux peut-être aussi aider ces Français qui s'intéressent au Japon. Il y a moyen de leur apporter peut-être un certain nombre d'informations, et c'est comme ça que j'ai commencé par écrire ce petit bouquin, cette petite méthode de langue, que j'ai terminé. Alors, une petite anecdote, j'ai terminé en 2002, en mars 2002, et je cherchais désespérément un éditeur pour qu'il puisse sortir avant 2002, si vous vous souvenez, c'était la Coupe du Monde de football. Oui. La France était championne du monde en 98, oui. Et donc championne en titre. Oui. Et la Coupe du Monde avait lieu en Corée et ensuite au Japon. Et je me disais, mais les Français, donc champions du monde, vont passer les qualifs en Corée, aller au Japon, et à ce moment-là, ça sera l'opportunité pour moi géniale de contacter les journaux et quand ils vont parler du Japon, de rajouter, tenez, il y a une petite méthode sympa qui vient de sortir, originale et tout. Et les Français se sont arrêtés en Corée. Ils n'ont même pas été qualifiés. Voilà. Ce qui était un grand regret, mais mon bouquin est quand même sorti à ce moment-là.
Vous avez quand même trouvé un éditeur.
J'en ai trouvé un, oui.
Et on l'a vu, ça a été quand même un livre, on peut le dire, avec un certain succès.
Tout simplement, alors là, c'était purement marketing. On avait bien réfléchi avec mon éditeur. On s'était dit, il y a un endroit où il faut le mettre. Le titre va vous sembler amusant. Il est toujours disponible, d'ailleurs, si on veut l'avoir. C'est une méthode, alors non pas pour apprendre le japonais, mais pour s'initier au japonais, apprendre rapidement quelques mots et utiliser ce livre pour pouvoir se fabriquer soi-même des phrases en japonais, des phrases simples, à partir de phrases qu'on s'est faites soi-même dans sa tête en français. Bien. Et donc, ce livre s'appelle « Comment se débrouiller ? Voilà. Comment se débrouiller en japonais en une heure ?
Ah oui, effectivement.
Voilà. Et en quatrième de couvre, j'avais expliqué pourquoi en une heure. J'ai expliqué parce qu'il suffit de lire le livre. Et pour comprendre, notamment, il y a un tableau. Et à partir du moment où on comprend l'utilisation du tableau, et ça, il ne faut pas une heure pour le comprendre, il se trouve qu'en japonais, c'est une langue très particulière où vous n'avez pas, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il n'y a pas ni de masculin, ni de féminin, tous les mots sont en neutre, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de singulier, les verbes ne se conjuguent pas, les mots ne se déclinent pas.
Ah oui, donc c'est beaucoup plus facile, voilà, que le français.
Voilà. Et on s'était dit, si j'écris ça dans la quatrième de couvre, et si je mets ça, alors un endroit très précis, qui était la boutique Relais, à l'époque c'était des Relais H, qui se trouve hors douane et sous douane du terminal de Roissy, d'où partent tous les avions Air France, Japan Airlines, etc. vers Tokyo, les gens qui passeront devant, en une heure, on a le temps, on a 12h, 13h de voyage, il coûte 12,50€, je crois, ou un truc. Allez, on se l'achète. Voilà. Et ça a marché. Excusez-moi l'expression, du feu de Dieu. Tous les jours, dans tous les vols qui partaient, on en vendait, je sais pas, 5, 10, etc. C'était génial.
Vous arrivez, Claude, à Toulouse en 2009, il y a donc 9 ans, pour créer votre propre structure. Alors, plusieurs questions, bien sûr. D'abord, pourquoi ce choix de Toulouse ?
Alors, ce choix de Toulouse, c'est que j'ai été tout à fait par hasard. À ce moment-là, j'étais retourné dans la région parisienne et j'ai été contacté. Je ne sais plus, même plus comment, peut-être un site internet que j'avais à ce moment-là, par la mairie de Quinfonce-Grive, oui, qui organisait une journée Japon. Et il m'avait trouvé, il me proposait de participer, pour notamment grâce à cette méthode de langue. Et il leur disait, oui, je peux peut-être faire quelque chose avec les enfants et leur montrer un petit peu comment ça se passe pour le japonais. Voilà. Il m'avait dit, c'est super sympa, venez, etc. Donc j'étais venu dans la région toulousaine. Et là, j'ai croisé un japonais, déjà d'un certain âge, mais avec un beau visage, une très jolie barbe, enfin moi, et qui exposait des céramiques qu'il faisait. Je me suis dit, tiens, dans ce trou perdu, il y a un japonais et il fait des belles choses. J'ai discuté avec lui toute la journée, on s'est quitté donc le soir. Et il se trouvait que l'année suivante, ça c'était en 2007, et en 2008, par hasard, j'ai été invité encore une fois à faire une conférence sur le Japon à Toulouse, dans un événement Japon, où il exposait encore une fois. Et on s'est retrouvés. Là, il m'a dit, mais viens à la maison. J'habite donc en dehors de Toulouse. J'habite près de Fronton. Il y a de la place. Viens, tu peux dormir un soir, etc. Ce que j'ai fait, tout à fait par hasard, et je suis tombé la veille d'un enfournement. En fait, il est chez lui. Il a son four à la japonaise. La veille d'un enfournement, oui. Qui dure à l'enfournement, il y a beaucoup, beaucoup de pièces que l'on met, ça dure quoi, 2-3 jours pour enfourner. Plus le temps de cuisson, c'est un cuisson, un four à bois, on cuit pendant 5 jours. Il faut en général une dizaine de jours pour que le four refroidisse, et après on fait le défournement. Et là où j'étais venu chez lui en 2008, en été 2008, rien que pour une journée normalement et une nuit, je suis resté chez lui 3 semaines.
D'accord.
Donc voilà, on a sympathisé et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à concevoir l'idée que, et moi je me disais, oui, Toulouse, la région toulousaine et le sud-ouest en règle générale, c'est un endroit où que le Japon a encore très peu pénétré, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau du tourisme. La plupart des Japonais sont dans la région parisienne, à Paris ou région parisienne, et au niveau du tourisme, alors les châteaux de la Loire, certes, mais depuis le Mont-Saint-Michel, la Provence, la Côte d'Azur, voilà. Mais le
mais
sud-ouest...
Mais il tout à faire voilà. Et tout à découvrir à Toulouse. Voilà.
Et comme j'aime bien la nature, et dans le japonais, que la nature a horreur du vide, on s'est dit, on va essayer de le combler, voilà.
Alors justement, parlez-moi de votre activité aujourd'hui, Claude.
Alors mon activité, pour vous la résumer... De manière très, très, très schématique déjà et très pragmatique, ce CCFJT, qui sont les abréviations de Centre culturel franco-japonais de Toulouse, est articulé autour de 5 pôles. Un pôle culturel, certes, mais également un pôle tourisme, un pôle business à faire, un pôle événementiel et un pôle formation. Voilà. Donc pour essayer de contribuer à notre petit niveau au développement des relations entre le Japon et Toulouse d'abord. À l'époque, on l'a créé Midi-Pyrénées, maintenant Occitanie, et puis... Bon, nous, on ne connaît pas de frontières administratives, je dirais, un petit peu l'ensemble du Sud-Ouest. Ce qui ne m'empêche pas, d'ailleurs, avec Internet, maintenant, d'avoir des relations avec les gens de Strasbourg, de Lille, de partout. Voilà.
J'allais vous demander, voilà. Vous avez un site, je suppose ?
Oui, alors, j'ai même plusieurs sites, mais celui qui est actuellement, et je vous en parlerai plus en détail, mais c'est le site qui est le plus actif actuellement, c'est un site qui est directement en relation avec mes activités actuelles. C'est-à-dire que... Alors, je reviens un petit peu en arrière. Ça, c'est le schéma, si vous voulez. Bon. Moi, mon activité, je me considère comme étant un trait d'union. Un petit peu, je suis né, comme je vous l'ai dit, entre la France et le Japon, avec un père japonais, une mère française, etc. Et si je me dis comme ça, un petit peu sans modestie, que je peux avoir éventuellement une fonction sur Terre pendant mon passage ici-bas, c'est peut-être d'être un petit peu un trait d'union entre la France et le Japon. Voilà. Connaissant un petit peu les deux. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire, aussi bien donc de promouvoir, pour en revenir à mon activité professionnelle, c'est promouvoir le Sud-Ouest vers les Japonais, aussi bien de promouvoir la culture japonaise, telle que moi je l'aperçois, ou telle que je pense qu'elle est, en tout cas, vers les Français de la région en particulier. Et il se trouve que j'aime bien le faire, j'aime bien promouvoir le Japon en fonction de ce que le Japon lui-même a envie de promouvoir. Je pense que c'est important. De le faire ainsi. Et il se trouve que cette année en particulier, on commémore en 2018, alors deux choses. D'abord, côté japonais, essentiellement ce qui compte, ce sont les 150 ans de la naissance de l'ère Meiji. Pour vous dire les choses simplement, le Japon, jusqu'à la fin de l'ère qui a précédé Meiji, qui est l'ère d'Edo, on considère que c'est le Japon un peu médiéval. Et que toute la modernité, l'occidentalisation, l'industrialisation, tout cela a débuté avec l'ère Meiji. Donc il y a 150 ans. Donc c'est un vrai changement au niveau du Japon. Et 1868, qui est l'avènement de cette ère Meiji, est les 150 ans. Voilà, c'est une date qui est importante pour les Japonais. Et côté français, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du Japon, ça peut être important. Mais plus que cela, 10 ans avant déjà, c'est ce qui a amené aussi d'ailleurs à l'ère Meiji, le Japon a commencé à s'ouvrir, contraint et forcé je dirais, mais à s'ouvrir vers l'Occident. Et en 1858 a été signé le tout premier traité entre la France et le Japon, un traité dit d'amitié et de commerce. Et donc cette année, nous allons aussi commémorer les 160 ans de ce traité. Et donc comme c'est un traité franco-japonais, il concerne aussi bien le Japon que la France. Et sur la base de ce traité, il va y avoir beaucoup de commémorations, dont les plus importantes, encore une fois, seront à Paris. Toute une série d'événements à partir de juillet jusqu'à février de l'an prochain qui s'appellent Japonisme 2018. Il va y avoir des expositions, on n'en plus savoir qu'en faire. Il va y avoir des spectacles vivants, du kabuki, du no, des choses qu'on voit rarement. Donc c'est bien, c'est des choses de...
Et aussi dans alors, toutes ces...
Pas dans celle-ci. Elles sont gérées directement par les ministères, les gouvernements japonais, français, localement en France, par l'ambassade du Japon, par la Maison de la Culture du Japon et la Fondation du Japon qui n'ont strictement pas besoin de moi. Voilà, c'est très simple. Mais par contre, c'est vrai que je sais qu'il va y avoir, il y a autre chose que Paris, il y a toute la France. Il va y avoir des centaines d'événements à travers la France. Et donc, de mon côté, je suis en train de monter quelques petits événements dans le cadre de ces commémorations. Et d'autre part, j'ai fait un site internet justement qui a pour vocation déjà d'informer et d'expliquer ce qui s'est passé au Japon à ce moment-là et quelles étaient les relations franco-japonaises de ce moment-là. Et c'est, moi-même, j'avais quelques connaissances, mais j'ai découvert moi-même en faisant des recherches des choses qui sont passionnantes. Voilà.
Vous nous donnez les coordonnées de ce site ?
Alors, il n'a pas vraiment de nom, mais alors je peux vous donner, si les auditeurs peuvent retenir... l'URL qui est, il faut taper ccfjt.com qui est mon site principal / Meiji, M-E-I-J-I, Meiji 150e, sans accent, 150 en chiffres. Si on oublie, c'est pas très grave, on met Meiji 150e, on met ça sur Google.
Et ça le trouve.
Normalement, le premier site qui apparaît, c'est le mien.
C'est voilà. Le bon.
Voilà. Et c'est un site donc d'information, mais qui en même temps, dans une deuxième partie, se propose de récapituler en fonction des annonces qui sont faites. Moi, je ne tiens pas à dévoiler ce qui reste encore secret, mais au fur et à mesure que j'en ai connaissance, c'est un site un peu portail qui va présenter tous les événements qui vont avoir lieu dans toute la France. C'est région par région. Tout ce qui va se passer cette année. C'est beaucoup de travail. Ouais. C'est beaucoup de travail, mais c'est passionnant.
Claude, je vous propose une deuxième pause musicale. Et alors là, votre choix s'est porté sur une musique seule, sur un instrument qui est une sorte de flûte japonaise verticale en bambou. Je vous laisse justement nous expliquer cet instrument et nous donner son nom.
Bon, je ne vais pas trop vous l'expliquer, je vais vous donner son nom qui est shakuhachi. C'est en effet, comme vous l'avez dit, comme une flûte verticale en bambou. Et il faut surtout l'entendre. Alors, je ne sais pas si je vais vous le dire avant ou après, mais bon, peut-être avant. J'ai choisi cet instrument qui n'est peut-être pas le plus connu des instruments japonais. On pense souvent d'abord au tambour japonais. On pense au shamisen, qui est une espèce de guitare de sitar à trois cordes. Ou alors le koto, qui est à plat, avec beaucoup plus de cordes, etc. Mais moi, j'aime bien cet instrument parce que je crois y percevoir... C'est un instrument à vent, donc j'y perçois beaucoup le souffle de la vie, le souffle de celui qui de l'exécutant, mais aussi le souffle de la vie, de la nature, du vent.
On écoute. Claude, aujourd'hui vous avez bientôt 57 ans.
Merci de me rappeler.
Oui, n'est-ce pas? Quels sont vos projets dans l'immédiat et dans le futur?
Alors, comme je vous ai dit, cette année, c'est une très grande année, en fait, de multiples commémorations entre le Japon et la France. Parce que là, je vous ai parlé de deux grandes commémorations, celle du traité et celle de l'ère Meiji. Mais accessoirement, il se trouve que ce sont les 100 ans de la création de la Chambre de commerce France-Japon qui est à Tokyo. Ce sont les 100 ans également, 150 ans, je crois, de la naissance de Paul Claudel, il me semble. Enfin, je ne sais plus, mais bon. Claudel aussi dans le coup, si je puis dire. Lui qui a été donc cet écrivain de renom, mais qui a été aussi ambassadeur de France au Japon. Bref, il y a énormément de choses. Et lié à ces commémorations, il va y avoir des centaines d'événements à travers toute la France. Donc voilà, je m'occupe de cela. Mais ce qui est important, c'est que dans les deux années à venir, et même dans les 2, 4, 6 et 7 ans, dans les 7 ans qui viennent, les relations entre la France ne vont pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, le Japon en 2019 organise la Coupe du Monde de rugby. Et quand on est dans le sud, quand on est à Toulouse ou dans le sud-ouest,
oui, le rugby,
c'est... Voilà.
Le mot veut dire quelque chose.
Le mot veut dire quelque chose. C'est la culture que vous connaissez. Et donc une Coupe du Monde, c'est important. Et le fait que ça se passe au Japon, c'est aussi la première fois que ça va se passer au Japon. C'est la première Coupe du Monde qui va se passer en Asie. C'est quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose sur lequel je travaille, moi, personnellement, depuis 7 ans déjà.
Je pense que c'est le moment de rééditer votre méthode pour apprendre le japonais en une heure et de le distribuer aux Toulousains.
Peut-être, pour ceux qui le veulent. Mais il suffit qu'ils aillent sur les sites, les sites bien connus. Je ne veux pas faire de pub. Donc voilà où on va.
Et on peut le trouver.
Voilà, si on tape soit mon nom Claude Yoshizawa, comment se débrouiller en japonais en une heure.
D'accord.
Voilà.
Et on a un éditeur à citer
Non, c'est pas la peine.
C'est pas la peine, d'accord. Ça apparaît tout seul.
Ça apparaît tout seul.
D'accord.
Voilà. Et sinon, alors il y a cet événement qui est très important. Et puis en 2020, encore plus important quelque part, ce sont les Jeux Olympiques d'été qui sont à Tokyo 2020.
Ne dites pas à un micro toulousain que les Jeux Olympiques sont plus importants que l'année du rugby. Hein.
Non, en effet. Alors, je ne vais pas le dire, je vais faire semblant de
l'avoir
dit.
Tout aussi important.
Tout aussi important. Et d'autant plus tout aussi important qu'il y a aussi du rugby. À 7, certes.
En plus.
Mais il y a du rugby maintenant dans les Jeux Olympiques. Non, c'est important dans le sens où tous ces deux événements, il faut bien comprendre que ce sont des événements très importants en soi. Mais si les Japon les organisent, c'est un petit peu comme les commémorations cette année, c'est parce que cela permet de braquer les projecteurs du monde sur le Japon. Et donc pour le Japon, c'est l'occasion rêvée de faire parler de lui, de faire parler. Alors il le fait parler à travers sa culture, à travers les choses qui le mettent en valeur, qui le valorisent. Mais on sait très bien que le but de tout cela, quelles que soient les relations culturelles, sportives, artistiques qu'on peut avoir, par derrière, il y a un but, c'est de faire du business. Au niveau des États, des gouvernants, etc., c'est leur principale préoccupation. Certains s'en plaignent, moi je ne leur jetterai pas la pierre, c'est comme ça que les choses tournent et c'est aussi comme ça que si les États s'enrichissent, ils peuvent éventuellement avoir... Quand je dis les États, c'est les institutionnels à tous les niveaux, ils peuvent peut-être avoir quelques subsides pour ceux qui font de la culture ou du sport. Voilà. Mais donc ça va être très très important et en termes de rugby, donc le Sud-Ouest ne peut pas être absent. C'est pas parce que l'équipe de France va y aller que le Sud-Ouest doit être absent. Le Sud-Ouest aussi doit être présent à la Coupe du Monde.
Bien sûr.
Et aux Jeux Olympiques. Et d'autant plus important pour la France que, le hasard faisant bien les choses, 4 ans plus tard, la Coupe du Monde de rugby sera en France. C'est France 2023 qui a été décidée il y a quelques mois. Et après Tokyo 2020, ça va être Paris 2024. Et quand on dit Paris 2024, c'est comme à Tokyo, c'est l'ensemble de la France qui va être concernée. Il va y avoir pour Paris 2024, a priori, des matchs de foot ou peut-être des matchs également de rugby qui vont avoir lieu au Stadium à Toulouse. Le Stadium sera, Toulouse sera ville olympique aussi. Voilà. Donc la France, pendant ces deux événements qui vont avoir lieu en 2019 et en 2020 au Japon, la France ne sera pas simplement un des participants à cette grande compétition, elle sera aussi le pays organisateur de l'édition suivante. C'est Madame Hidalgo qui va aller chercher à Tokyo le drapeau olympique, vous voyez. Donc, ce qui nous laisse augurer de maintes et maintes possibilités Et il faut à tout prix, et après que l'on soit dans l'aéronautique, que l'on soit dans l'innovation, que l'on soit dans la gastronomie, que l'on soit dans l'agriculture, n'importe, il faut profiter de cet engouement général, de cette vague entre la France et le Japon dans les deux prochaines années, mais sachant que ça va se poursuivre encore pendant 4 ans et 5 ans après. Et donc, vous voyez, moi, mon avenir à moi est quelque part tout tracé. Et c'est vrai que je mets beaucoup en évidence ces événements, dans le sens où je me dis, puisque les Japonais les organisent et veulent se faire connaître à travers eux, il faut commencer par les mettre en lumière pour que nous aussi, on puisse à terme les forcer à se dire, mais quels sont ces gens, d'où viennent ces gens et que font-ils, ces gens qui s'intéressent tant à nous. C'est comme ça qu'en général, ça marche.
Vous continuez à aller au Japon ?
Pas assez souvent.
Mais régulièrement ?
Mais voilà, en général, une fois tous les 2 ou 3 ans seulement. Mais
ah oui, oui, quand même.
Oui.
Quand même.
Oui.
Vous voyagez aussi en dehors du Japon ?
Relativement peu actuellement. Vous savez, quand j'étais, je vous disais, dans cette période professionnelle de coordination, j'ai voyagé énormément en France, en Europe, en Afrique, donc jusqu'en Amérique du Sud. Ensuite, en Formule 1, étant donné que j'étais avec un pilote automobile, à l'époque, il y avait 17 ou 18 Grands Prix. Il y en avait bien la moitié qui était en dehors d'Europe, plus des essais en hiver, etc. J'ai passé jusqu'à l'âge de, je ne sais plus quand, donc 95, faites le calcul, ça fait 34, 35 ans à peu près. J'ai passé mon temps dans les avions à voyager, etc. Ce qui fait qu'un petit peu par la suite, je me suis un peu calmé. Et d'autre part, comme je vous disais, j'ai habité dans le sud à Bandol, Nice. Et puis ensuite, c'est vrai, en Isère, en Sud-Isère. Et puis là, je suis à Toulouse. Et à chaque fois, quand je suis dans le sud comme ça, je me dis, mais pourquoi aller quelque part ? Le monde entier vient chez nous en vacances. On habite déjà sur un lieu de vacances. C'est pas vraiment la peine d'aller autre part. Et il me reste en fin de compte. Alors là, il me reste des endroits à voir en France, notamment cette région du sud-ouest dont je me vante de parler et de promouvoir au Japon et que je connais encore fort mal. Donc j'essaye de la découvrir aussi. Et il y a un pays que je ne connais pas du tout. Alors là, c'est le hasard complet qui fait ça. C'est le Pays Basque. On n'est pas très loin de Biarritz, on n'est pas très loin.
Et pourtant, joli pays.
Eh oui, je le sais, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. C'est comme la lecture.
Si j'ai essayé, c'est l'adopter. Hein.
En plus, paraît-il. Oui. Mais vous voyez, c'est comme la lecture, je vous disais tout à l'heure. Si je ne suis pas confronté à un besoin, une raison valable, connaître pour connaître, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère y aller en sachant que, tiens, je m'intéresse. Vous avez peut-être vu à travers ma page Facebook que je m'intéresse à la cuisine, notamment.
On en reparlera de votre page Facebook et de vos recettes de cuisine, effectivement. Mais j'aimerais savoir, vous évoquez Toulouse en disant que pourquoi on bougeait, puisque tout le monde vient chez nous pour tout ce que Toulouse représente d'agréable. Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors de votre travail Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? Où est-ce que vous sortez à Toulouse?
Alors, je ne sors plus énormément. Je sors là encore soit avec des personnes, soit dans des lieux, soit pour des événements qui m'intéressent. Bien sûr, j'ai quelques amis que je vois un petit peu régulièrement, mais ça, c'est d'un banal, je dirais.
Vous allez au théâtre, au cinéma? Au cinéma, vous l'avez dit, mais le théâtre, non, vous n'en avez pas évoqué.
J'aime tout.
L'opéra,
le ballet, la danse moderne, un petit peu tout.
Parce qu'on a tout ce qu'il faut à Toulouse pour sortir.
Oui. Sauf que, alors, si je peux me permettre une critique... tout le monde va m'en vouloir, mais bon, tant pis. Il me manque, en fait, et je crois qu'il manque à Toulouse, quelque chose de... Et je relis ça à mon activité professionnelle, notamment dans le tourisme. Il manque quelque chose de dimension, de renom, de célébrité internationale. Et je crois que l'opération que mène le maire, M. Moudin, d'essayer d'inscrire le centre, le Capitole et alentour au patrimoine mondial de l'UNESCO... Et voilà, c'est ce genre de choses qui, au niveau touristique par exemple, font vraiment venir les étrangers. On a beau leur vanter le confort, le luxe de la vie, le style de vie à la toulousaine, etc. Les gens qui passent par ici peuvent y être confrontés, je dirais, peuvent le tester et s'en rendre compte. Mais honnêtement, ça ne fait pas venir les gens, surtout de loin, et notamment les Japonais. Même au niveau des musées, je répète toujours et je me fais toujours plein d'ennemis partout, mais je crois que c'est la vérité. J'ai jamais entendu un Parisien dire je vais descendre pendant un week-end à Toulouse pour aller voir tel musée. J'ai jamais entendu.
Pourtant, on a de beaux musées à
on
Toulouse.
On a de beaux musées, mais qui n'ont pas cette aura ou cette force pour capter et faire venir.
C'est donc, les gens qui sont ici. Ils sont mal. Il n'y a pas une jolie communication autour de nos musées.
Il me semble. Vous voyez, là, on est en train de se battre. Le maire se bat avec, encore une fois, je crois qu'il a tout à fait raison d'essayer, en tout cas, de le faire, d'inscrire le Capitole au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se trouve que la basilique de Saint-Sernin, par exemple, fait partie du chemin de Compostelle. Et à ce titre, Compostelle étant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Sernin en fait aussi partie.
Des Falcos.
Sauf que ça, on n'en parle pas assez. Les gens ne le savent pas. Et les touristes. Ou c'est peut-être écrit comme ça, mais ce n'est pas assez vendu, ce n'est pas assez. Et vous savez, malheureusement, les techniques de vente actuelles, c'est du martelage, c'est la force, c'est le rouleau compresseur de Hollywood, vous savez, pour imposer des films qui, en fait, n'ont aucun intérêt, mais tout le monde y va. Voilà. Et donc, si on n'est pas là-dedans. Et c'est vrai que c'est pas dans. Alors, je crois que ce n'est pas dans l'esprit de Toulouse de faire ça. Et c'est peut-être là un petit peu le.
Ce que vous pensez qu'il faudrait faire.
Oui.
Alors justement, on parlait de la publicité, de promouvoir les choses. Alors effectivement, je vous suis sur les réseaux sociaux et bien sûr sur Facebook. Et j'ai vu que vous donniez souvent des recettes de cuisine. Alors Claude, indiquez à nos auditeurs un ou plusieurs restaurants où on peut bien manger japonais à Toulouse.
Alors, le restaurant qu'il est possible de recommander, je dirais un peu tout public, parce que ça fait restaurant. Et en plus, il y a un côté qui est très sympathique. On appelle ça en japonais des izakaya. Ce sont un peu les équivalents des bars à tapas, où vous rentrez, vous commencez par commander la boisson, je dirais, et ensuite les petits plats qui vont avec pour grignoter. Et ce restaurant dont je voudrais vous parler, qui s'appelle Iori, qui se trouve rue des Paradoux, juste à côté du métro Esquirol, enfin, vous le retrouverez facilement sur internet, Iori propose ce genre de formule et c'est actuellement le plus recommandable, si je puis dire, des restaurants qui fait vraiment restaurant. Sachant qu'après vous avez un restaurant mais qui fait plus un petit peu cantine, cuisine familiale et plus, donc moins recommandable auprès des gens dans le milieu des affaires par exemple, etc. Qui est un restaurant qui s'appelle Solaneco, mais qui est très sympathique, Solaneco à Saint-Cyprien. Vous avez dans le quartier de Jean Jaurès, entre Jean Jaurès vers la Colombette, enfin dans ces cas-là, vous avez deux restaurants, un qui est de là depuis très longtemps, qui s'appelle Le Choun, qui est aussi un restaurant relativement convenable, je dirais. Mais également un autre qui s'appelle Mochiya. Alors ça m'embête, je les ai presque tous cités, je crois, je ne voudrais pas en avoir oublié.
Alors,
mais
on
bon.
Va s'arrêter là, et voilà. Maintenant j'aimerais que vous me citiez.
Mais je recommande vraiment Iori, voilà.
J'aimerais que vous me citiez également, on va passer sur le Claude franco-français.
Oui.
Et bien justement, citez-moi un bon restaurant pour vous à Toulouse. En cuisine traditionnelle française.
Un bon restaurant. Non, je ne peux pas vous le dire parce que c'est chez un copain.
Mais justement, alors...
Non, je ne veux pas dévoiler ni son nom, ni son adresse. Non, des restaurants sympas, mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais
pour vous, il y a plein.
Oui,
on
bien sûr.
On mange bien à Toulouse.
Ah, bien sûr. On mange trop bien même.
Ouais, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
On mange trop
on
bien.
Mange très,
c'est
très
trop
bien
riche. C'est même trop riche. Ouais. Alors, le seul reproche, si je devais en faire un, c'est quand je dis trop, c'est en quantité aussi. Il y a des,
oui,
en quantité, c'est.
Mais surtout, des excès. C'est le Claude japonais qui parle.
Pas seulement, honnêtement. C'est... si l'OMS m'entend, elle sera d'accord avec moi.
Claude, j'ai une toute dernière demande à faire. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois choses en japonais pour le plaisir?
Pour le plaisir. Alors, pour votre plaisir, Irene Santaihen kirei desu ne. Ça veut dire, Irène, vous êtes très jolie.
Merci.
J'espère que ça vous fait plaisir.
Oui, tout à fait.
Et sinon, que pourrais-je dire pour le plaisir des auditeurs qui... Alors, je vais faire très long. 来年は日本でラグビーの世界ワールドカップが行われて、次の年は東京オリンピックでございます。ぜひ、それを機会にして日本にぜひ遊びに行ってください。Et tout cela, et ça j'ai dit, donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, en 2019, l'année prochaine, ça sera la Coupe du Monde de rugby au Japon. L'année suivante, ça sera les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Essayez vraiment de profiter de ces deux grands événements pour, pourquoi pas, aller faire un tour au Japon.
Merci Claude.
Merci Irène.
Ainsi va la vie comme va le vent sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant. Ainsi va la vie comme un invité mystère.